Il est maintenant 20h30 ici à Paris et c'est RFI que vous écoutez.
Afrique Soir.
Voici une nouvelle demi-heure d'actualité et c'est avec vous Zéphirin Quadio. Bonsoir.
Bonsoir Philippe, bonsoir à toutes et à tous. La première offensive majeure des forces du général Al-Burhan sur Khartoum depuis le début de la guerre au Soudan. Objectif, reprendre le contrôle de la capitale dont une bonne partie est aux mains des paramilitaires de son rival, le général Emeti. En République démocratique du Congo, retour au calme dans l'ouest de Goma ce vendredi. La capitale de la province du Nord Kivu, théâtre hier d'affrontements entre les FARDC et des éléments des FDLR, des miliciens hutu-rwandais accusés d'avoir participé au génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Et puis notre dossier est consacré aujourd'hui à la nouvelle escalade dans la brouille entre l'Algérie et le Maroc. Alger, qui avait déjà rompu toute relation diplomatique avec Rabat, a décidé d'imposer hier un visa d'entrée aux Marocains. Pourquoi cette décision ? Élément de réponse à suivre. Oui, pour la première fois depuis le début de la guerre au Soudan, il y a 17 mois, l'armée a lancé jeudi une offensive majeure. Objectif, reprendre le contrôle de Khartoum, la capitale dont une bonne partie est aux mains des paramilitaires des forces de soutien rapide du général Emeti. Au début de l'offensive de jeudi, l'armée du général Al-Burhan a repris 3 ponts stratégiques qui permettent l'accès à Khartoum. Les hommes du général Al-Burhan sont postés aux entrées de la ville et livrent bataille pour accéder au cœur de la capitale. Les précisions de Houda Ibrahim.
Appuyés par des frappes aériennes intenses, des tirs de drones et à l'artillerie lourde et moyenne, l'armée soudanaise continue sa progression pour le deuxième jour consécutif dans Khartoum. Objectif, chasser les FSR de la capitale et reprendre le palais présidentiel qu'elles occupent dès les premiers jours de la guerre en avril 2023. Les combats acharnés se sont concentrés aujourd'hui sur plusieurs axes, comme le pont de Halfaya, le quartier Fao, le marché central de Khartoum et le quartier Mougren à l'ouest du centre. Les positions des FSR dans le secteur de la raffinerie de pétrole El Jili à Halfaya, à Bahri, ainsi qu'au niveau du palais présidentiel ont été bombardées. Des blindés venant d'Umdurman se sont positionnés à Bahri entre autres. Les FSR ont répliqué à l'attaque en frappant les bases de l'armée à Umdurman où 6 morts sont tombés selon le ministère de la Santé suite à ces frappes. En février dernier, l'armée soudanaise avait réussi à reprendre des grandes parties d'Umdurman, ville adjacente intégrée dans la capitale. Les civils y sont revenus depuis et la vie a repris son cours. Désormais, 6 millions de personnes y habitent.
Houda Ibrahim, baisse de tension ce vendredi dans l'ouest de Goma et une partie du territoire de Nyiragongo au nord Kivu en République démocratique du Congo. Un retour au calme après les affrontements de jeudi, affrontements entre les FARDC, les forces armées congolaises et des éléments des FDLR dans le groupement Rusayo et ses environs. Des combats qui ont une nouvelle fois contraint la population, notamment celle des sites de Lushagala et Mugunga, à fuir. Le récit de Patient Ligodi.
Le calme est revenu, mais la situation reste tendue dans cette région du Nord Kivu. Jusqu'à présent, l'armée congolaise ne s'est pas encore exprimée sur cette offensive qui a secoué Rusayo et ses environs. De leur côté, certains responsables des groupes pro-gouvernementaux admettent qu'il y a bien eu un accrochage. Toutefois, ils cherchent à minimiser la portée de l'incident, affirmant qu'il s'agissait d'une simple confusion entre le commandement des forces armées de la RDC et certains éléments FDLR. Selon des sources au sein de ces mouvements, l'accrochage a débuté mercredi soir, mais ils assurent qu'il n'y a plus de tension majeure entre eux et les forces armées congolaises. L'incident s'est produit dans les zones de Rusayo et Sake, deux localités sensibles dans cette région en proie à des conflits. Cependant, la question des FDLR reste au cœur des discussions. Lors des réunions tenues ce mois de septembre entre les autorités congolaises et rwandaises, facilitées par l'Angola, des progrès ont été réalisés sur le plan harmonisé des neutralisations de ces forces. Mais sur le terrain, très peu de changements ont été observés dans les débuts de la mise en œuvre de ces plans. Kinshasa attend un geste concret de Kigali, notamment le retrait des troupes rwandaises présentes en RDC. Patient Ligodi, Kinshasa, RFI.
Au Tchad, le président Mahamat Idriss Déby a annoncé le remplacement de son directeur de cabinet civil, actuel ministre de l'Environnement. Idriss Saleh Bachar succède à Idriss Youssouf Boy, jusque-là considéré comme le véritable bras droit du chef de l'État. Celui-ci est appelé à d'autres fonctions selon le décret présidentiel. Au Sénégal, le parti de l'ancien président Macky Sall répond aux accusations de détournement de fonds et de dérapage financier portées par le Premier ministre Ousmane Sonko jeudi soir. Selon l'Alliance pour la République, la gestion économique et financière de l'ancien régime ne souffre d'aucune irrégularité, contrairement à ce qu'affirme l'actuel gouvernement. Abdoumbo, ancien député et porte-parole de l'APR, soupçonne une campagne électorale avant l'heure d'un Premier ministre, je cite, « en mauvaise posture ».
Je pense qu'on ne peut pas épiloguer outre mesure sur ce que le Premier ministre a dit, parce que j'ai même pas eu l'impression d'écouter un Premier ministre, parce que j'ai eu l'impression, moi, d'écouter un chef de parti qui est inquiet, qui est dans le désarroi et qui comprend que les Sénégalaises et les Sénégalais ont compris qu'ils leur ont vendu du vent parce que le projet qu'ils ont tant chanté n'existe pas. Le Premier ministre Ousmane Sonko est en campagne électorale. Le Premier ministre Ousmane Sonko sait qu'il va avoir une débâcle au niveau des élections législatives, il se dit, je vais faire une campagne électorale anticipée en faisant des déclarations qui n'ont absolument rien à voir avec la réalité. Quand Ousmane Sonko se permet de dire que l'État du Sénégal, pendant 12 ans, a maquillé les chiffres pour donner ça au FMI et à la Banque mondiale, c'est parce que ce monsieur ne comprend pas comment fonctionne un État. Ce monsieur est un populiste et je pense que le populisme aujourd'hui ne peut plus prospérer dans notre pays.
Abdoumbo, porte-parole de l'APR, au micro de Birahim Touré. Au Sénégal, toujours, manifestation interdite pour l'Alliance pour la transparence des élections. Décision du préfet de Dakar. L'ATEL, qui regroupe l'ensemble de l'opposition, avait prévu de manifester pour dénoncer sa mise à l'écart du processus électoral en vue des législatives du 17 novembre. Le président Bassirou Diomaye Faye avait décidé, effectivement, après la dissolution de l'Assemblée nationale le 12 septembre dernier, d'organiser des législatives anticipées. Une décision attaquée devant le Conseil constitutionnel par l'opposition qui a été déboutée. L'ATEL a introduit un recours en annulation devant la Cour de justice de la CEDEAO. Un mois à présent du projet de nouvelle constitution dévoilé la semaine dernière en Guinée, projet qui fait toujours débat dans l'opposition. Le leader de l'UFDG, l'Union des Forces démocratiques de Guinée, Sélou Darlène Diallo, fustige ce texte qui traduit, selon lui, une volonté du général Mamadi Doumbouya de se présenter à la présidentielle à l'issue de la transition, une démarche contraire à ses engagements pris il y a 3 ans au moment du coup d'État qui a renversé le président Alpha Condé.
Il y a une volonté, naturellement, de confisquer le pouvoir par la junte. Elle avait délivré un discours qui avait rassuré la population, y compris moi-même, lorsqu'elle avait dit qu'elle allait mettre fin à l'instrumentalisation de la justice, au piétinement des droits et libertés des citoyens, qu'elle va organiser des élections et remettre le pouvoir à celui que le peuple élirait, aussi bien au niveau local, au niveau législatif qu'au niveau présidentiel. Elle s'était engagée donc à ne pas participer aux élections et tous ses engagements sont aujourd'hui violés. Il y a une volonté de restreindre les libertés publiques et de confisquer le pouvoir. C'est ça qui fait que moi je suis révolté parce que j'ai été peut-être naïf, j'ai cru Monsieur Doumbouya, colonel à l'époque, hein, lorsqu'il a décliné ses objectifs et ses engagements. Mais aujourd'hui, je sens que c'est des engagements qui ont été trahis complètement.
L'opposant guinéen, c'est Sélou Darlène Diallo.
Radio France Internationale.
En direct de Paris où il est 20h et bientôt 39 minutes et l'heure de notre dossier consacré aujourd'hui à la nouvelle escalade dans la brouille entre l'Algérie et le Maroc. Alger, qui avait déjà rompu toute relation diplomatique avec son voisin marocain depuis 2021, a décidé hier d'imposer un visa à tous les étrangers détenteurs d'un passeport marocain. Rabat est accusé de tentative de déstabilisation et de déployer des agents de renseignement sionistes. Fin de citation. Alors pourquoi imposer ce visa maintenant alors que les tensions entre les deux voisins sont fortes depuis de nombreuses années ? Élément de réponse avec Nadia Ben Mafoud.
Les relations ont toujours été tendues entre les deux États voisins, mais depuis la signature des accords d'Abraham entre le Maroc et Israël en 2020 et la normalisation de leurs relations, Alger a encore durci le ton. En 2021, l'Algérie rompt les relations diplomatiques avec Rabat et dans la foulée, elle ferme l'espace aérien à tous les avions civils et militaires marocains. Depuis, l'escalade entre les deux États s'était limitée à des échanges hostiles par discours interposés jusqu'à l'instauration de ces visas. Pas de rupture des relations diplomatiques avec Tel Aviv, collaboration sécuritaire et militaire maintenue ou encore présence d'un attaché militaire de l'État hébreu au Maroc, Alger dénonce la proximité qu'entretient le royaume avec Israël malgré la guerre menée à Gaza et désormais au Liban. Par ailleurs, Aboubakr Djamaï, spécialiste du Maghreb et professeur des relations internationales à Aix-en-Provence, voit aussi un lien avec le récent changement de position français sur la question du Sahara occidental. Depuis le 30 juillet, la France considère que le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine, un changement de position qui isole l'Algérie, selon Aboubakr Djamaï, et qui peut aussi expliquer la décision d'imposer ses visas aux Marocains.
L'Algérie accuse son voisin d'être à l'origine de réseaux à grande échelle, de crimes organisés, de trafic de drogue et d'êtres humains, ainsi que d'actes d'espionnage sur son territoire. Alors pourquoi avoir pris la décision d'imposer des visas aux ressortissants marocains? Quelle rhétorique utilise Alger en mettant en place cette mesure? Élément de réponse avec Pierre Vermeren, historien des sociétés arabes et amazigh, contemporaine à la Sorbonne, au micro de Nicolas Sûr.
On est sur des appareils d'État très opaques, hein, puisque la police comme l'armée sont au cœur des institutions algériennes et marocaines. Et bien sûr, toute communication de leur part leur laisse une parole unilatérale. Donc il est très difficile de l'extérieur de savoir ce qui se passe réellement. Deuxièmement, l'Algérie a toujours géré et utilisé la question des visas dans ses relations extérieures. La diplomatie du visa est quelque chose d'important. Ça souligne un cran supplémentaire dans la crise.
Alors, Alger utilise tout de même une rhétorique très particulière, hein, en invoquant la présence d'agents de renseignement sionistes. Est-ce parce qu'Alger sait que ce genre d'accusation fait recette dans les opinions publiques? Où y a-t-il des raisons d'inquiétude particulières et notamment la coopération sécuritaire qui existe entre le Maroc et Israël?
Tout est vrai à la fois. On peut même ajouter, si vous voulez, que Alger, en insistant sur le fait qu'il y a cette coopération à bas bruit aujourd'hui maroco-israélienne et qui sous-entend que des agents israéliens utiliseraient des passeports marocains, d'ailleurs indépendamment de la bonne volonté de Rabat, puisque s'ils habitent en Israël, il n'y a pas une circulation qui puisse être contrôlée par Rabat pour ces personnes. Évidemment, Alger tente de capitaliser sur ces informations qui sont strictement impossibles à vérifier, mais qui soulignent seulement l'extrême tension et l'extrême violence des relations entre, d'une part, le Maroc et l'Algérie, entre l'Algérie, bien sûr, et Israël, et tout ça sous le regard des pays européens, d'une part, et des pays arabes, de l'autre. Donc oui, il y a une forme de mise en scène. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, mais encore une fois, c'est un cran supplémentaire.
Pourquoi cette nouvelle étape maintenant?
D'abord, il faut dire que la campagne électorale vient de prendre fin en Algérie, que le président Tebboune a été réélu. Donc, c'est un de ses premiers actes de politique internationale. Ça donne une direction. Deuxièmement, l'activation de la guerre, si vous voulez, entre Israël et le Hamas au Liban réactive donc les tensions régionales, et c'est une occasion aussi pour l'Algérie, qui ne peut pas participer directement à ce conflit, de montrer qu'elle est vigilante, notamment contre les supposées interventions israéliennes. Et puis bien sûr, il y a aussi le dynamisme de Rabat, qui est extrêmement actif depuis la reconnaissance par la République française de la souveraineté sur le Sahara. Il y a bien évidemment là quelque chose qui fait réagir Alger et qui pousse à toujours dégrader davantage la relation avec le voisin. Comme l'Algérie est en difficulté sur ce terrain, eh bien, elle attaque sur d'autres.
Le décryptage de l'historien Pierre Vermeren au micro de Nicolas Sûr pour ce dossier consacré à la nouvelle escalade dans la brouille entre l'Algérie et le Maroc. En Libye, se dirige-t-on vers un règlement de la crise autour de la nomination du gouverneur de la Banque centrale, crise qui paralyse toute l'économie du pays depuis plus d'un mois. Jeudi, des parlementaires des deux camps se sont mis d'accord avec le soutien des Nations Unies sur la nomination de Naji Issa, déjà cadre de la Banque centrale. L'accord qui a reçu l'approbation du Conseil présidentiel doit être entériné au Parlement lundi. Explication Claire Fage.
L'accord entre deux représentants libyens, l'un du Parlement qui siège à l'Est et l'autre du Haut Conseil d'État équivalent du Sénat à l'Ouest, laisse espérer que la Banque centrale de Libye pourra enfin retrouver un gouverneur reconnu par la communauté internationale en la personne de Naji Issa, qui travaille déjà pour l'institution libyenne. Le fait que le Conseil présidentiel au pouvoir à l'Ouest ait depuis approuvé cet accord, sous réserve de contrôler la composition du Conseil d'administration de la Banque centrale, est plutôt de bon augure. Le temps presse, car depuis qu'Abdelhamid Dbeiba, le premier ministre du gouvernement de Tripoli, a chassé l'ancien gouverneur Sadiq al-Kabir à la mi-août. Personne n'a accepté ce coup de force, ni les dirigeants de l'Est libyen, contrôlés par le général Haftar. Ils ont en représailles stoppé la production pétrolière et donc privé la banque centrale de ses ressources. Quant aux banques étrangères, elles refusent d'échanger désormais des dollars avec l'institution financière libyenne, qui n'a donc plus de capacité à importer les produits de première nécessité dans un pays très dépendant de l'étranger. Le risque est désormais de voir se généraliser la contrebande en Libye.
Explication signée Claire Fage. L'hommage de l'Afrique du Sud aux combattants de la lutte contre l'apartheid, morts en exil. Cérémonie en présence du président Cyril Ramaphosa ce vendredi à Pretoria. Les restes humains de 42 de ces combattants ont été rapatriés mercredi depuis la Zambie et le Zimbabwe, plus de 30 ans après leur mort. À Pretoria, le récit de Joséphine Klöckner.
Une cérémonie très symbolique, d'abord par son lieu, en haut de la colline de Freedom Park, un mémorial en l'honneur de l'histoire et de la libération du pays, où un mur des noms célèbre tous les héros nationaux. Un mur sur lequel le président Cyril Ramaphosa a annoncé que les noms des 42 combattants, dont les restes ont été rapatriés cette semaine, seront ajoutés. Mais derrière ces 42 cercueils recouverts du drapeau sud-africain, ce sont tous les combattants anti-apartheid morts en exil qui ont été honorés aujourd'hui. Des militants de l'ANC et du Congrès panafricain, ces mouvements de libération interdits par le régime d'apartheid et qui pendant 30 ans ont été contraints de se réorganiser hors du pays. Au moins 1000 activistes sont morts pendant ces années d'exil et seule une poignée avait depuis été rapatriée à la demande de leur famille. Cette fois-ci, c'est le gouvernement qui a initié ce grand retour en s'associant avec les pays voisins concernés. Le premier pas d'un programme de rapatriement plus large qui s'étendra à d'autres pays. Une volonté aussi d'honorer les familles de ces combattants présentes aujourd'hui et qui enfin vont elles-mêmes pouvoir enterrer leurs proches dans leur province d'origine. Joséphine Klöckner, Pretoria, RFI.
Un retour à la normale à la tête de la Fédération tchadienne de football est-il possible ? L'instance nationale est sans bureau exécutif depuis plus de 2 ans. La Fédération internationale de foot s'impatiente et fait planer indirectement le spectre de sanctions. Elle vient en effet d'adresser une lettre aux autorités tchadiennes et a désigné Amat Baba Amat comme secrétaire général par intérim. Charge à ce dernier d'organiser une élection dans les plus brefs délais. Une élection qui aurait dû avoir lieu en 2023, mais un bras de fer juridique a tout bouleversé. N'Djamena les explique. De Nesta Yamgoto.
La note de la FIFA au gouvernement tchadien ne précise aucune date. Elle indique simplement que l'élection d'un nouveau conseil à la tête de la Fédération tchadienne de football association doit se tenir dans un bref délai. Le courrier précise qu'il revient à Amat Baba Amat, homme politique et président de la Fédération tchadienne de lutte, d'assurer l'intérim et d'organiser cette échéance électorale. Cette élection à la tête de la Fédération tchadienne de football aurait dû se tenir il y a presque un an. Elle a été interrompue par une décision de la justice, car l'un des candidats était accusé d'avoir falsifier une des pièces de son dossier. Ce bras de fer juridique a ainsi privé le football tchadien de son exécutif, plongeant ainsi la crise qui dure depuis l'élection contestée de Mahmoud Moukhtar Hamid en 2020 à la mise en place d'une commission de normalisation. Engagé dans les éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc, le Tchad est tenu de se conformer à l'injonction de la FIFA sous peine des nouvelles sanctions. Nestayam Goto, N'Djamena, RFI.
RFI, N'Djamena, où il est 19h48. Et à présent, immersion dans un écrin de biodiversité âprement protégé sur la côte est de Madagascar, aux abords du canal des Pangalan, aux frontières d'un territoire qui a perdu l'essentiel de son couvert forestier. Ces 50 dernières années, subsistent encore quelques 2000 hectares de forêts primaires, refuge d'une flore et d'une faune unique en danger d'extinction. Les arbres y sont extrêmement convoités. Cette forêt appelée Vouiboul ne doit sa survie qu'à une femme, Angélique, qui se bat au péril de sa vie depuis 8 ans contre les trafiquants. Un reportage signé Sarah Teto.
De part et d'autre, des sentiers sableux, les essences d'arbres endémiques se succèdent. Quand soudain, sur le sol, un carnage, comme le nomme Angélique Razafine Jazoir.
Ah bah là, bah, c'est dur, c'est vraiment très dur. En palais, là Bah ça, c'est encore des copeaux de bois qui ont été coupés par les braconniers. Là, c'est toujours du Nantes, rouge comme ça. Et ça, c'est une famille d'acajou, un jaune. Tu vois, l'intérieur, ils prennent que le cœur. C'est triste quand même, il n'y a pas grand-chose, quoi. Il y a 2 cm. Je comprends pas pourquoi c'est toujours pas protégé.
Nantes, Insia, Eben, Tous ces bois précieux ou semi-précieux sont taillés et débités directement dans la forêt, puis transportés de nuit sur des barques à fond plat par les canaux qui serpentent au milieu de la forêt. Ils sont ensuite revendus quelques heures après à Tamatave comme bois de construction ou sous forme de charbon. Face à ces coupes répétées dans Vouiboul, Angélique a créé l'association communautaire Razan Vouiboul en 2016 pour protéger la forêt. L'association emploie une dizaine d'agents de patrouille comme Justin, mais le système a ses limites.
On n'ose pas aller sans elle dans la forêt parce que si on y va seul, on nous tue. Personne n'a peur de nous, ils nous courent après avec une machette et nous, on n'a pas d'armes. Madame Angélique non plus n'est pas armée, mais les trafiquants ont peur d'elle et ils s'enfuient.
Pourtant, malgré son aura, la protectrice de la forêt n'est pas épargnée par les menaces de mort ni les arrestations qui rythment sa vie depuis bientôt une décennie.
Le garde à vue, on n'en compte même plus, hein, c'est récurrent. Le souci, c'est que s'il y a vraiment une minorité qui sont protégées au niveau du tribunal, on est tous menacés de mort en permanence. Ils ont été tabassés plusieurs fois, les agents de patrouille. Hein, Justin ?
Oh, ma pire.
Tout à coup, en plein tournage du reportage, Angélique entend des coups de hache.
On a entendu un braconnier en train de couper. On va essayer de l'intercepter.
Ce jour-là, le malfaiteur aura réussi à fuir avant de croiser la combattante. Celle qui ne se tait pas et ne s'avoue jamais vaincue veut croire qu'en 2025, elle arrivera à faire classer sa forêt en aire protégée. Une reconnaissance mondiale de la valeur de Vouiboul et une manière surtout d'obtenir plus de fonds pour conserver une forêt qui a perdu 50% de sa superficie sur les 50 dernières années. Sarah Teto, de retour de Vouiboul, RFI.
J'ajoute qu'Angélique Razafine Djazoar vient d'être sélectionnée pour représenter les lanceurs d'alerte environnementaux par Frontline Defenders, la Fondation pour la protection des défenseurs des droits humains. Elle prendra la parole fin octobre à Dublin pour présenter son combat et le contexte peu favorable aux lanceurs d'alerte à Madagascar. Et on détourne à présent à Lumumbashi, où l'incontournable café jazz du Katanga fête ses 15 ans ce vendredi. Le café jazz, une structure qui a formé plus de 2000 jeunes artistes. En 15 ans, 137 spectacles ont été organisés. Denise Maéo nous invite à découvrir ce lieu incontournable de la scène culturelle louchoise.
Le café jazz a vu le jour en 2009 avec l'appui de l'Institut français de Lumumbashi. L'artiste Francesco Ncikala, son initiateur, s'en rappelle comme si c'était hier.
L'idée de faire le café là, c'était parce que je revenais de Kinshasa. Pendant deux semaines, je tournais. Il n'y avait que du playback en fait. J'en pouvais plus. Donc pour essayer de forcer les choses, donc j'ai pris la guitare lors du festival Le Boom Hip Hop, je me suis fait huer. Alors c'est là que je me suis dit, ok tiens, il faut vraiment qu'on mette en place un spectacle qui ramène que du live.
Le live, c'est une grande première pour Samy et Philé Esco, jeunes musiciens. Ce soir, il est sur scène avec sa chanson Makuta en Swahili, qui signifie l'argent.
Je passais à l'Allée de l'Étoile, je voyais beaucoup d'artistes, des grands artistes de Lubumbashi. Vraiment, ça m'inspirait beaucoup plus. Je me disais, moi aussi, dans les jours à venir, il faut que je preste à voilà, cet événement. Et aujourd'hui, je suis là, et je me sens bien ou quoi.
Narvin Dalla, une jeune artiste d'une vingtaine d'années, a déjà l'expérience du café jazz. Nous l'avons rencontré quelques heures avant le spectacle.
À travers le café jazz, j'ai appris vraiment l'art de la scène. Le contact avec le public. Déjà, je fais la première partie, donc les levées de rideau. Et ça sera Michael Jackson, Liberian Girl et Seigneur de Luz.
Cet événement a formé plusieurs centaines de musiciens et il permet la découverte des jeunes talents. Manu Iye, instrumentaliste du café jazz et qui joue la guitare classique, est fier de contribuer à la promotion de cet art.
Aujourd'hui, je peux dire dans les grands Katanga en général, 80% des artistes sont passés par café jazz. Et il y en a qui ont fait des noms. Je peux en citer Sando Marteau, Pisson, il y a même RJ qui est passé.
Pour les 15 ans de cet événement musical, une centaine de spectateurs a droit à une gamme variée de sonorités et de danses. Denise Maéo, Lubumbashi, RFI.
Il est 20h55 à Lubumbashi, 18h55 en temps universel. On arrive au terme de cette première édition d'Afrique Soir. Juste le temps de rappeler quelques rendez-vous à noter sur Radio France Internationale. À 19h10, temps universel, Ici l'Europe, coproduit par RFI et France 24. Caroline de Camaret reçoit Jean-Claude Juncker, l'ancien président de la Commission européenne et ex-premier ministre du Luxembourg, reviendra entre autres sur l'arrivée place Beauvau de Bruno Retailleau et ses premières déclarations qui ont déclenché une levée de boucliers à gauche où beaucoup l'accusent d'avoir tenu des propos racistes par le passé. Le nouveau ministre de l'Intérieur français veut d'ailleurs remettre en cause le pacte migratoire scellé par les 27. Écoutez ce qu'en dit Jean-Claude Juncker.
Je crois qu'il faut être respectueux et des traités et des accords intervenus au niveau européen. On avait beaucoup applaudi à la conclusion du récent accord migratoire. Je ne crois pas qu'il soit facile de les remettre en cause, ne fût-ce qu'en partie. Et pour le reste, tous les gouvernements européens luttent contre l'immigration illégale et clandestine. Rien de nouveau sous le soleil.
Voilà, Jean-Claude Juncker a retrouvé à 19h10 temps universel dans Ici l'Europe avec Caroline de Camaret. Puis à 19h40 temps universel dans Pourquoi RFI dit ça ? La récupération d'un fait divers effroyable. La mort de Philippine a provoqué ces derniers jours en France une nouvelle polémique sur l'immigration. Et comme à chaque fois dans ce type d'affaires, les mots utilisés pour parler de ce sujet prennent tout de suite une tournure politique. Alors comment parler de l'immigration ? Réponse d'Aurélien Devernois du service politique de RFI dans Pourquoi RFI dit ça ?
Moi, j'aurais tendance à essayer de laisser ces mots dans la voix des gens qui les utilisent. Je ne sais pas si, par exemple, un député Rassemblement National ou un ministre de l'Intérieur, hein, par hasard, dit « l'immigration est un problème en France », c'est pas moi qui vais dire ça. Je vais le laisser dans sa voix et on va essayer de l'entendre.
Voilà pourquoi RFI dit ça, c'est l'occasion d'expliquer notre métier de journaliste, nos contraintes, nos choix, et vous pouvez nous poser vos questions en utilisant le hashtag, le mot-clé hashtag pourquoi RFI dit ça sur les réseaux sociaux. Enfin, à 20h10, temps universel, couleur tropicale. L'audicière vous propose ce soir, comme tous les vendredis, une émission consacrée aux nouveautés et découvertes. Mais en fin d'émission, la séquence Gold mettra à l'honneur l'un des piliers du Makossa, l'une des plus populaires musiques du Cameroun, avec un titre extrait du premier album de Dinabel, sorti en 1978, Mboa Bobé. Voilà le Makossa, retrouvé à 20h10, temps universel dans Couleur tropicale, avec dans la séquence Génération consciente, Dimi Traoré qui présentera le Choc des Titans, compétition de boxe dont la 5e édition a commencé le 14 septembre en Côte d'Ivoire. Il est 20h et bientôt 58 minutes ici à Paris. Excellente soirée à l'écoute de Radio France Internationale.
L'atelier des médias, Steven Jambeau.
Il se présente comme un média d'information et de formation sur les enjeux écologiques et il mise sur les solutions. 2050 Now est un média adossé au groupe Les Échos Le Parisien. Il diffuse des vidéos sur Instagram, TikTok et YouTube, mais aussi des newsletters. Aude Baron, sa rédactrice en chef, est mon invitée dimanche à 11h10 TU sur RFI dans l'atelier des médias.
RFI, la sélection du mois.
On a fait les 100 pas.
Arash Sarkeshik.
On a travaillé dur pour en arriver là. Tout ça pour ça.
Tu seras mieux qu'ici.
Sofiane Pamar et Oxmo Puccino.
Partout où je vais, je te remercie. Et promets que nulle part ailleurs sur terre, tu seras mieux qu'ici.
RFI Musique. La marche du monde.
Dans le Mali indépendant, Sédou Badiane Kouyaté était un pro-chinois. Jeune ministre de l'économie rurale, il voyagea dès 1959 à Pékin en quête d'un soutien politique et financier. Valérie Nivelon vous propose de revivre cette épopée à travers Mao Tse-Tung Madi ou les confessions de Sédou Badiane Kouyaté. Une exclusivité RFI.
La marche du monde. Valérie Nivelon.
Dimanche, à partir de 15h10 TU.
RFI.
Ce dimanche, sur RFI, Idée, Pierre-Edouard Deldic.
Philosophe Corinne Pelluchon, notre invitée, est l'auteur d'une œuvre qui parle notamment du soin et de la nature. Cette fois-ci, elle s'inspire de la mer.
Qu'est-ce qui se passe quand on pense l'humain à partir de la mer ? J'en tire les conséquences au niveau d'une philosophie de l'existence et j'en tire les conséquences au niveau juridique, du droit international de la mer et politique.
Idée, proposée par Pierre-Edouard Deldic, tous les dimanches à 17h10 TU sur RFI.